Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Égypte, l'armée égyptienne a annoncé ce mercredi avoir tué un important chef djihadiste dans la péninsule du Sinaï, où le groupe État islamique mène une insurrection contre le régime du président Abdel Fattah al-Sissi. Selon un communiqué militaire, les forces égyptiennes ont attaqué des zones montagneuses et tué Nasser Abou Zakoul, leader du groupe terroriste, dans le centre du Sinaï après d'importants échanges de tirs. L'armée égyptienne a lancé le 9 février une vaste offensive anti-djihadiste, notamment dans le Sinaï, théâtre d'une insurrection de la branche locale du groupe État islamique. Au total, selon des chiffres officiels, plus de 100 djihadistes et au moins 22 militaires ont été tués depuis le début de cette opération baptisée Sinaï 2018. En Gambie, plus d'un an après le départ du pouvoir de l'ex-président Yahya Jammeh, des familles de victimes de son régime réclament aux nouvelles autorités la vérité sur leurs morts et disparus. Les proches des victimes ont manifesté mardi à Banjul, la capitale. Morgan Guiriek.
Nous voulons la justice maintenant, ont scandé une trentaine de manifestants dans la capitale gambienne lors de cette marche pacifique, rapporte l'AFP. L'an dernier, les autorités avaient annoncé que des dépouilles de Gambiens tués en luttant pour la fin du régime de Jammeh avaient été exhumées. Une année plus tard, leurs familles et amis n'ont pas d'informations sur leur sort, a déclaré Zainab Low, une sœur d'un membre de la garde présidentielle disparu en 2006. Le temps d'attente est terminé. La vérité doit être dite. Nous avons besoin de justice, a-t-elle ajouté, au nom des familles des victimes de M. Jammeh, accusées de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire par des opposants et défenseurs des droits de l'homme.
Niger, reprise des cours pour les 23 000 étudiants de l'université du Niamey après un mois de grève. Les étudiants s'étaient mis en grève pour exiger la réhabilitation de 5 étudiants exclus en mars de l'université. Plus de détails avec Marie Benson.
Sita Diabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey, affirme que les cours ont repris pour permettre au gouvernement d'entreprendre des négociations. Cela ne veut pas dire que les cours ont repris définitivement, car nous n'avons pas encore obtenu la satisfaction à nos principales revendications, a-t-il ajouté, précisant que les forces de l'ordre déployées sur le campus ont été retirées. Le mois dernier, 5 étudiants avaient été exclus de l'université de Niamey après avoir été accusés de violence et d'agression envers un de leurs professeurs, qualifiant l'incident d'altercation mineure et ses exclusions injustes, disproportionnées, illégales et arbitraires. Leurs camarades avaient donc entamé une grève. Ils souhaitaient aussi l'apurement de 6 mois d'arriérés de bourse. La semaine passée, le Parlement nigérien a annoncé qu'une enquête parlementaire allait être ouverte afin d'analyser la situation de l'université de Niamey, qui est la plus importante du Niger.
Afrique centrale maintenant, en RDC, le président de la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, et 3 autres dirigeants sportifs congolais sont sous contrôle judiciaire à Kinshasa pour une affaire d'utilisation de fonds publics. Constant Omari, Barthélémy Okito, secrétaire général au sport de la RDC, ainsi que Roger Bondembe et Théobald Binamingu, 2 vice-présidents de la FECOFA, sont entendus, sont en garde à vue depuis 21h30 mardi soir. Ils sont en instance d'être entendus, a déclaré à l'AFP un magistrat du parquet sous couvert d'anonymat. Selon ce magistrat, les 4 intéressés vont être interrogés sur l'utilisation des fonds publics dans l'organisation des rencontres sportives des équipes nationales de football et des clubs engagés dans les compétitions africaines. Ces dirigeants sportifs sont entendus sur des présumés détournements $1 million destinés à l'organisation de 4 matchs de football, a déclaré Maître Alain Makengo, un de leurs avocats. Le président de la FECOFA, Constant Omari, est aussi vice-président de la Confédération africaine de football et membre du comité exécutif de la FIFA, la Fédération internationale de football. Et on décide toujours coup de balai dans l'appareil judiciaire congolais. 200 magistrats ont été révoqués par ordonnance présidentielle. Des magistrats faussaires relevés de leurs fonctions au terme d'une enquête menée par les autorités judiciaires dans le but d'améliorer l'image de la justice. Le bâtonnier des avocats, Maître Matadi Wamba, se félicite de la révocation de ces brebis galeuses. On l'écoute.
C'est le travail que doit faire toutes les années le Conseil supérieur de la magistrature. Je considère que c'est dans le cadre normal, l'autogestion, l'autodiscipline des magistrats. Si ça vient des magistrats, puisque c'est le cas, c'est donc tout à fait normal. Si ces contrôles se poursuivent d'année en année, périodiquement, il y aura un impact positif, il y aura un résultat positif s'agissant de la discipline au sein de la magistrature. La peur du gendarme est le commencement de la sagesse.
Maître Matadi Wamba, bâtonnier de l'Ordre des avocats de la RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Retour en Afrique de l'Ouest, au Niger, plus de 5 millions d'enfants ont été vaccinés début mars contre la poliomyélite, selon les statistiques du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Une campagne de vaccination qui s'est déroulée dans les 72 districts sanitaires du pays. La poliomyélite, une maladie invalidante et très contagieuse, touche en majorité les enfants. Pour en parler, John Lindon a joint le docteur Idi Iliassou, ministre de la Santé du Niger.
Le lancement de cette campagne rentre dans ce que nous appelons les AVS, activités de vaccination supplémentaires, et qui consiste à protéger tous les enfants contre cette terrible maladie. D'abord, il faut que vous le sachiez, le Niger a été certifié en 2017 indemne de la circulation de poliovirus sauvage. Ça veut dire que le poliovirus sauvage n'est plus en circulation au Niger, mais par contre, certains pays frontaliers du Niger, ce virus circule de part et d'autre quand vous prenez vers le Nigeria. Et jusque-là, vous avez des cas de poliovirus sauvage qui circulent. Les autres pays également frontaliers du Niger, le poliovirus sauvage circule. Il faut renforcer la protection, il faut renforcer la vaccination. Et c'est dans ce cadre que nous avons lancé cette énième campagne de lutte contre la poliomyélite au Niger.
Et comment avez-vous réussi à atteindre les plus de 5 millions d'enfants qui ont été vaccinés?
Nous faisons la stratégie porte à porte, non seulement en mettant les moyens, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires, en recrutant des équipes, en formant ces équipes et en mettant vraiment les moyens nécessaires qu'il faut pour atteindre la cible. Et je vous assure, cette dernière campagne a été un succès. Vous avez des régions où on était parti au-delà de 100%. Quand vous prenez les régions qui comportent des réfugiés, qui donc comportent des enfants hors zone, ces hors zones-là ont été touchés parce qu'on a pris en compte tous les enfants, que ce soit des enfants nigériens, que ce soit des enfants réfugiés, les enfants qui viennent des autres pays, et on les a pris en compte. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de vacciner au moins 5 millions d'enfants nigériens et 5 millions d'enfants, je dirais, et Nigériens entre guillemets, parce qu'il y a d'autres pays qui viennent se réfugier au Niger et ces mères-là, elles viennent avec des enfants.
Malgré ces campagnes et les effets de la poliomyélite, beaucoup de parents sont encore sceptiques quant à l'efficacité de la vaccination. Quel message avez-vous pour eux?
Non, en réalité, on ne peut pas douter de l'efficacité de ce vaccin parce que c'est un vaccin qui a été testé, c'est un vaccin homologué.
Le docteur Idi Iliassou, ministre de la Santé du Niger. Actualité aux États-Unis pour terminer. Le président américain Donald Trump annonce qu'il y a eu des discussions à très haut niveau entre les États-Unis et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Le chef de l'exécutif américain a fait cette révélation à l'occasion de sa rencontre mardi en Floride avec Shinzo Abe, le premier ministre japonais. Monsieur Trump doit rencontrer dans quelques semaines Kim Jong-un lors d'un sommet historique. Précision de Jean-Roger Bion.
Le président américain a fait preuve d'un certain optimisme sur les préparatifs de ce sommet. Il a parlé de 5 lieux possibles pour ce tête-à-tête historique qui aura lieu probablement début juin si tout se passe bien selon lui. D'après le Washington Post, le directeur de la CIA et futur secrétaire d'État, Mike Pompeo a effectué une visite secrète à Pyongyang au cours de laquelle il a rencontré Kim Jong-un lors du week-end de Pâques. La Maison-Blanche comme la CIA se sont refusés à tout commentaire. La Maison-Blanche a par ailleurs précisé que M. Trump n'avait pas directement été en contact avec le leader nord-coréen. M. Trump a aussi affirmé être résolument favorable aux discussions entre les deux Corées sur la nature de leurs liens à 10 jours d'un sommet entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ils ont ma bénédiction pour discuter de la fin de la guerre. Les gens ne réalisent pas que la guerre de Corée n'est pas terminée, a-t-il expliqué.
Merci de votre attention.